Vous avez développé votre entreprise à partir des années 80.
Oui.
Donc, c'est pourquoi, après, vous avez créé un livre qui
Oui.
s'appelle Réussir en Chine, une expérience de 30 ans. Effectivement, des années 80 jusqu'à maintenant, c'est 30 ans, plus de 30 ans maintenant.
Oui, en fait, c'est un peu sous la pression de mes amis. Hein, ils m'ont dit, tu as eu une riche expérience en Chine, c'est dommage que tu n'en fasses pas part, en fait, parce que ça peut aider des entreprises à mieux comprendre ce pays qui est quand même un petit peu compliqué pour les Français, notamment de par une culture qui est très très différente. Et donc, je l'ai fait. Alors, je l'ai écrit également en relation avec un grand ami qui s'appelle Armand Chen, qui est d'origine chinoise mais de nationalité française, et qui est un grand patron français en Chine, en fait. Il a créé, enfin, c'est lui qui était au départ de Faurecia, qui est un équipementier important de l'automobile. Sous son impulsion, Faurecia a créé 16 usines en Chine. Il est devenu après numéro 2 de PSA. Il est devenu après directeur général d'Alstom Grid. Et maintenant, il est dans une société agroalimentaire familiale mais importante qui s'appelle Roquette. Et c'est quelqu'un qui a très très bien réussi. Et en plus, c'est un ami et son épouse dirige notre bureau de Shanghai. Donc, en fait, j'ai souvent plaisir à lui demander des conseils. Et dans le livre, en fait, on apporte un regard croisé. Moi, j'apporte le regard d'un consultant, c'est-à-dire, je conseille les entreprises, je ne suis pas opérationnel en Chine. Et lui apporte sa vision d'un grand patron qui est opérationnel, puisqu'il est en Chine et il dirige des entreprises. Et donc, en fait, je pense que le mélange des deux apporte quelque chose.
La conception de livre, c'est de vous deux.
Voilà, exactement. C'est un mélange de nous deux. Et en plus, on a le grand plaisir d'avoir une préface écrite par Grégoire Olivier, qui est l'ancien président de Sagem et de Faurecia, et qui est au COMEX, c'est-à-dire au comité exécutif de PSA, et qui est le directeur de PSA pour toute l'Asie. Et c'est lui notamment qui a négocié avec Dongfeng sur l'entrée dans le capital de PSA, dont on a beaucoup parlé dans les journaux français en particulier.
Vous avez consacré combien de temps sur l'écriture de ce livre?
Alors, j'avoue que c'était pas facile parce que j'ai, comme tout patron d'entreprise, j'ai un agenda
Bien sûr.
qui est bien chargé et les journées ont beaucoup plus que 8 heures. Et donc, ça a été souvent un travail, on va dire, presque de nuit ou de petit matin. Et je l'ai écrit.
Vous avez commencé à partir de quelle année
J'ai commencé en 83. Je l'ai écrit un petit peu pendant les vacances d'août. Parce que 83, ça faisait. 2013, excusez-moi. J'ai démarré en 83. Donc ça faisait exactement 30 ans. Et un petit peu pendant les vacances. Et puis, je l'ai terminé vers décembre 83, et je l'ai donné à mon éditeur, mais vous savez, avant d'éditer un livre, il se
Bien
passe un
sûr.
certain temps, donc il est paru à mi-84, à mi, pardon, 2014, pardon.
Donc, ça a sorti en
C'était le,
2014.
voilà, l'an dernier, il est sorti.
Donc, maintenant, ça a déjà publié.
Oui, il est déjà publié. Je dois dire, il rencontre un certain succès.
Super.
Cela me vaut le plaisir et l'honneur d'être interviewé, comme vous le faites très aimablement.
Déjà sur la couverture de ce livre,
Oui.
ça s'appelle Réussir en Chine. Parce que quand j'ai vu la couverture, c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, c'est un livre français. La couverture est en rouge.
Oui.
La couleur symbolique de la Chine.
Oui.
Et puis, il il y a un grand caractère chinois, Ying, qui occupe presque toute la couverture, la page de la couverture.
Voilà. Et c'était une calligraphie. Pourquoi vous avez eu cette conception ? Calligraphie qui a été faite par mon ami Armand Chen.
D'accord.
Il l'a fait à la main. Et donc, on l'a reproduite sur le livre. Et comme vous savez, Ying, ça veut dire gagner, vaincre, réussir.
Oui.
Mais il y a 5 clés, comme on l'explique. Il y a une première clé, Huang, qui veut dire fuir, disparaître, mourir. Ça veut dire, c'est la conscience des dangers quand on entreprend.
D'accord.
Après, il y a une deuxième clé qui veut dire bouche, ouverture. C'est communiquer. La troisième clé veut dire richesse, trésor, c'est-à-dire gagner de l'argent selon une certaine moralité. Et puis, il y a une dernière clé qui veut dire ordinaire, commun, ce qui veut dire savoir être ambitieux tout en gardant les pieds sur terre.
D'accord.
Voilà. Wow. Donc, ça a différentes significations en un seul mot. Mais là, ce sont mes amis chinois qui m'ont appris. Je ne fais que répéter ce qu'ils m'ont dit.
Alors, comment vous définissez la réussite ?
Alors, nous, on accompagne à la fois des PME, PMI, des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, de 500 à 5000 salariés. Et puis, on a quelques rapports, quelquefois, avec des grandes entreprises, mais les grandes entreprises sont déjà toutes installées. Alors, je dirais, si je me réfère au terme de l'entreprise, les grandes entreprises vont en Chine, dans n'importe quel pays, avec l'idée de prendre une grande part de marché. Une grande société ne peut pas être dixième dans le pays. Il faut qu'elle soit première, deuxième ou troisième.
Bien sûr.
Donc, elle s'installe soit d'un seul coup, avec beaucoup de moyens, soit elle rachète des sociétés concurrentes. Dans le cas des PME, PMI, c'est différent. Je ne dirais pas qu'elles se moquent de la part de marché qu'elles ont, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de réussir, et pour elles, réussir, puisque c'est investir, c'est prendre des risques, c'est de gagner de l'argent. Et moi, j'ajouterais une autre chose, c'est il ne suffit pas de réussir, de gagner de l'argent, mais il faut se sentir bien en Chine également pour avoir une action durable, c'est-à-dire faire beaucoup d'efforts pour bien s'adapter.
D'accord. Alors, mais pendant 30 ans, je pense que vous avez aussi votre propre approche de réussir en Chine. C'est pourquoi vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Réussir en Chine ». Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter votre secret de votre approche de réussir en Chine ? Est-ce que vous avez aussi en parlé dans votre livre ?
Alors, moi, je dirais pour réussir en Chine, alors je parle comme conseiller, puisque moi, je ne fais qu'aider et conseiller les entreprises. J'ai des bureaux en Chine, j'ai un bureau à Pékin, j'ai un bureau à Shanghai. Nous avons des agents relais parce que la Chine est plus un continent qu'un pays. Donc, nous avons des agents relais dans d'autres grandes villes. Et on a ce qu'on appelle des experts par grandes secteur, par grand secteur économique. Mais notre but, c'est pas nous de réussir. Bien sûr, il faut qu'on réussisse pour avoir une action pérenne. Mais le but premier, c'est d'aider les entreprises à réussir que nous amenons. Alors, je dirais que pour réussir en Chine, moi, je vois 4 conditions. Je dirais constituer une bonne équipe, ça paraît facile à dire, mais c'est pas toujours évident pour des Français qui arrivent en Chine. Si vous n'avez pas une bonne équipe et que vous n'arrivez pas à vous exprimer au travers de cette équipe et à bien la motiver pour qu'elle porte vos couleurs le plus haut possible, c'est difficile. Deuxièmement, la place de l'interculturel. Ça, c'est un message quelquefois un peu difficile à faire passer à des entreprises françaises. Vous savez, nous, les Français, on est quelquefois un petit peu fiers de notre technologie. Et on pense, parce qu'on arrive avec une bonne technologie, que tout le monde va se mettre à genoux devant nous. Et, non, en Chine, c'est un pays où il y a beaucoup de concurrence. Et Donc, il faut bien comprendre l'esprit chinois, la culture chinoise. Moi, je passe beaucoup de temps, quand on démarre avec une société française, je lui impose de m'écouter au moins une demi-journée, voire une journée entière, sur l'interculturel.
D'accord.
Parce que, vous savez, souvent on me dit, au bout de 30 ans, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre un Français et un Chinois ? Alors je dis, un Français, il va de manière rectiligne, d'un point A à un point B, en enchaînant ce qu'il pense être une logique. En Chine, dans la culture chinoise, on dit « seuls les démons vont en ligne droite ». C'est-à-dire que l'approche est différente, c'est comme le jeu de Go. Hein, pour arriver au centre, on tourne un petit peu autour et on encercle. Et donc, quand on comprend que c'est un autre pays avec d'autres pratiques, j'aime bien avertir les gens pour qu'ils décryptent bien, parce que si on décrypte uniquement par rapport à notre culture, on croit avoir compris et quelquefois, on n'a pas du tout compris. Donc, c'est un point
d'accord,
important.
Donc, d'après vous, interculturel est très important.
Très important. Très important. Troisièmement, je dis, on ne va pas en Chine, les mains dans les poches. Il faut être encore plus professionnel que dans d'autres pays. Donc, il faut une grande préparation avant même de partir. Et il ne suffit pas d'avoir fait un jour un voyage en disant « donc il y a un potentiel, on va y aller, puis on va voir comment les choses se passent ». Il faut au contraire bien se préparer, voir ses points forts, ses points faibles. Nous-mêmes, nous faisons toujours un audit de l'entreprise que nous accompagnons pour connaître un petit peu son identité, son métier, ses points forts, ses points faibles. Si elle fabrique, quels sont ses moyens de production, quelle est sa politique internationale, quels sont ses souhaits en Chine. Quelquefois, on les change un peu parce qu'elle n'a pas forcément une connaissance de la Chine. Donc, elle va croire que telle chose va être importante, alors qu'il existe déjà une concurrence importante en Chine dans un domaine. Donc, on les aide quelquefois un petit peu à modifier leur axe. Et on fait toujours une étude de faisabilité ou de marché pour étudier quels sont les concurrents en Chine. Non seulement les concurrents chinois, mais les concurrents étrangers, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont en Chine. Comment elles sont organisées, quels sont les prix qu'elles pratiquent, dans quelle ville elles agissent, quelle est leur politique commerciale. Et puis, il faut apprendre un peu également les aspects juridiques en
d'accord,
Chine.
Hein,
on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des lois en Chine. Et quand on intervient sur le territoire chinois, il faut suivre les lois. Donc, il y a pas mal de choses à apprendre. Il faut faire des premières missions pour essayer de comprendre. Une fois qu'on a fait l'étude, nous, on présente les principaux acteurs qui peuvent être des clients, des fournisseurs, des distributeurs, des politiques également, le politique est important en Chine. Et quand on s'installe dans une ville, il vaut mieux avoir des très bonnes relations avec la mairie de cette ville. Donc, il y a tout un travail préparatoire qui est tout à fait indispensable. Et puis, dernière chose, je dirais, il faut savoir s'adapter aux conditions locales. Moi, je dis toujours, j'ai appris en allant en Chine à faire preuve d'humilité parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je voudrais citer l'exemple de l'ancien patron de Louis Vuitton, qui malheureusement est décédé, je crois, il y a un an, et qui disait « Nous avons réussi en Chine parce que nous nous sommes adaptés ». Et on pourrait penser que la force de l'image de Louis Vuitton suffit pour s'imposer dans n'importe quel pays, puisque tout le monde, mondialement, c'est un nom mondialement connu. Non, lui-même avait l'humilité de dire, on a réussi, bien sûr, la marque nous a aidés, mais également, on a fait beaucoup pour s'adapter aux conditions du marché chinois.
Est-ce qu'il y a une spécificité de s'adapter dans le marché chinois.
Oui, Louis Vuitton présente des produits un peu différents de ce qu'il présente en France, dans les boutiques de luxe en Chine.
D'accord.
Et il a essayé également de cultiver son image par rapport à ce qui se fait en Chine. Mm-hmm. Donc, ce n'était pas les mêmes, on va dire, slogans publicitaires que ceux qui sont en Europe, notamment.
C'est vrai.
Et donc, il faut toujours... D'ailleurs, c'est un principe pour quelqu'un qui veut exporter. Hein, c'est toujours s'adapter aux conditions locales. Je dis, c'est toujours une erreur que même si vous avez bien réussi en Allemagne, voire aux États-Unis, voire dans un pays asiatique comme le Japon, ça ne veut pas dire que vous allez faire un copier-coller en Chine. La Chine est vraiment un pays qui a sa propre identité, sa propre spécificité. Et si vous ne faites pas le travail nécessaire pour comprendre et vous adapter, vous risquez d'avoir un échec.
D'accord. Les points que vous avez évoqués sont tout à expliquer dans votre
livre.
Oui,
tout à fait. J'ai essayé de le rendre un peu pédagogique.
Ouais.
Alors, je ne donne pas de leçons, je ne suis pas un donneur de leçons. Mm-hmm. Simplement, j'explique des expériences et je navigue entre les deux points qui sont... Au départ, je voulais appeler le livre... échouer ou réussir en Chine. Et mon éditeur m'a dit... Ah,
il n'y a pas échec.
Non, pas l'échec. Personne ne voudra l'acheter. Mais moi, je considère que même quand on réussit, on ne réussit pas toute une vie. On a quelquefois échoué sur certains points. Mm-hmm. Mais si on sait bien analyser ces points, on peut bien rebondir pour pouvoir réussir.
Oui,
Et donc, j'oscille, si je peux dire, entre ces deux pôles d'explication dans ce livre, en disant qu'il faut également tirer conséquence de certains échecs pour mieux réussir par la suite.
Oui, c'est vrai. Pourquoi pas ? Dans certaines sortes, les échecs sont comme une pause.
Oui.
On fait une pause pour mieux démarrer après, pour la réussite. Bon, merci beaucoup, Monsieur Domps. Nous avons passé une très bonne matinée avec vous.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et c'est toujours pour moi un plaisir de parler de la Chine, qui est un pays que j'ai appris à aimer beaucoup.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci. Au revoir.
Au revoir.